on était rendu le troisième plus gros importateur de stock médical, là, avec deux grands joueurs déjà existants. Là, ben, tu avais Thériault International. C'est quoi ça? Fait qu'avec un chiffre d'affaires de 255 millions, c'est qui eux autres? T'sais? Fait que là, ben, là, ça a commencé à gratter, puis c'est là que nos noms ont sorti.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 78e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En générant plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Lors du 35e épisode de Hypercroissance, j'avais eu la chance de recevoir Kevin Pilu, cofondateur de l'entreprise Sportera. Lors de l'entretien, Kevin m'avait parlé du pivot incroyable que lui et son équipe avaient réalisé au cours de l'été 2020 afin de créer, en l'espace de quelques semaines seulement, le premier festival d'humour au volant. Maintenant, l'équipe de Sportera n'a pas été la seule à devoir se réinventer au cours de la dernière année et l'épisode d'aujourd'hui en est l'exemple parfait. Vincent Thériault, cofondateur de l'entreprise Sur Mesure, est avec nous aujourd'hui afin de nous expliquer comment son entreprise a été capable de pivoter à 180 degrés, éviter la faillite et finalement vendre pour 255 millions de dollars de masques au gouvernement du Québec. L'histoire, qui sort quasiment d'un film hollywoodien, démontre l'agilité, la flexibilité et également la résilience que l'équipe de Sur Mesure a pu avoir au cours du printemps 2020. Sans plus attendre, ma discussion avec Vincent Thériault. Vincent Thériault, tu es le co-président et également co-fondateur de l'entreprise québécoise Sur Mesure qui se spécialise dans la création de vêtements adaptés pour les hommes d'affaires. Lancée en 2010, l'organisation a pris des parts de marché importantes en ayant 10 succursales au total, 7 au Canada, 2 aux États-Unis et 1 au Mexique. En plus d'opérer une entreprise en forte croissance, toi et ton équipe avez été pleinement impliqué dans la lutte contre le COVID-19 dans la dernière année en étant un fournisseur direct du gouvernement Legault en ce qui a trait à la livraison de masques et de blouses. Vincent Thériault, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Salut Antoine, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Merci de le demander. Puis Vincent, parlons un petit peu de Sur Mesure avant d'analyser tout ce que vous avez fait dans la dernière année au niveau des masques. Sur Mesure est une entreprise familiale, vous l'avez lancée à Sainte-Foy, vous êtes toujours à Sainte-Foy aujourd'hui d'ailleurs, mais tranquillement vous avez intégré le Canada, les États-Unis, le Mexique également, et ce que j'ai été capable de lire sur votre site web, c'est que votre objectif à la base c'était d'offrir une expérience client différente, plus adaptée à la clientèle que vous vouliez desservir. Peux-tu nous dire un petit peu comment que ça a commencé tout ça là, il y a quelques années?
Ouais, ben écoute, à la base, tu l'as dit, c'est familial. C'est moi, mon frère. On a parti Sur Mesure il y a 10 ans maintenant, en novembre 2010. Tu sais, on dirait quand tu repenses, là, ça fait longtemps. Tu sais, 10 ans pour un entrepreneur, normalement, on dit tout le temps, dans 5 ans, tu vas être rendu ce que tu veux. Mais ça a été là, un long cheminement au cours des 10 dernières années. À base, faut que tu comprennes, moi et mon frère, on est des passionnés de sport, de basketball. Fait que notre première passion avant l'entrepreneuriat, c'était le basketball. Fait que malheureusement, je mesurais pas 6 pieds 6. Mon idole, c'était Michael Jordan. Je voulais jouer aux États-Unis, mais malheureusement, j'ai pas atteint la NBA. Après mon secondaire 5, je suis parti, par exemple, en Caroline du Nord. Fait que j'ai quand même vécu mon rêve américain. Je suis parti là-bas un an. J'ai convaincu mes parents en leur disant que je voulais apprendre mon anglais. Je voulais que mon frère vive la même expérience. Fait qu'on a eu une chance extraordinaire de jouer dans les meilleures équipes là-bas. Malheureusement, moi, je me suis blessé un genou. Il a fallu que je revienne au Canada. Mon frère, lui, a fait toute son année là-bas. Il a eu un full scholarship là, dans une université américaine. C'est quand on est revenu ici, ben moi, je suis revenu, j'ai fait mon université Laval en administration. Puis quand mon frère est revenu, il a fait énormément de voyages à travers le monde. T'sais, moi, j'ai fait beaucoup l'Amérique du Sud. Lui, il a fait beaucoup l'Asie. Puis, ben, on cherchait des idées d'entreprise, mais on savait pas quoi faire. Puis, on n'avait aucun moyen. On n'avait aucun dollar. Fait qu'on se dit, bon, comment est-ce qu'on peut partir notre propre entreprise? Puis de là, j'ai remis l'idée, tu sais, on avait vu justement à Bangkok, mon frère l'avait vu aussi à Hong Kong et ailleurs au Vietnam, du sur-mesure. Tu sais, on n'a rien inventé avec du sur-mesure. Puis on s'est juste challengé à se dire comment est-ce qu'on pourrait ramener ça en sol nord-américain, tu sais, rendre ça trendy, fun, mais surtout abordable. Tu sais, tantôt quand tu parlais d'expérience client, Je pense que c'était vraiment à la base de démocratiser le sur-mesure, puis le rendre de masse. Ou est-ce que, tu sais, c'était à une certaine élite? T'sais, si on revient il y a 10-15 ans, le sur-mesure, il n'était pas accessible pour toi puis moi qui voulait juste aller travailler avec un beau suit. Il fallait acheter du off-the-rack traditionnel. Donc, comment est-ce qu'on pouvait permettre cette expérience-là à monsieur tout le monde? Ben, c'est de là que, lentement, dans le sous-sol, chez moi, avec mon frère, on a lancé sur-mesure. Puis, de là, tu sais, on était dans le sous-sol, on se disait, bon, comment est-ce qu'on part ça? Puis, tu sais, l'expérience client, puis il faut se ramener dans le commerce de détail traditionnel il y a 10-12 ans, était complètement différent. Tu sais, c'était encore des grosses boîtes, et ça allait encore un petit peu, tu sais, des labés de ce monde, des grosses boîtes qui existent. Puis, tu sais, il faut que tu ailles là, puis que tu choisisses tes affaires-là. Tranquillement, le web est arrivé, puis offert vraiment une belle plus-value pour le consommateur. Mais pour nous, on voulait le révolutionner dans tous les détails. Fait que oui, je te parlais du prix, de l'accessibilité aux produits, mais c'était aussi dans l'expérience même, tu sais, de servir un petit café, c'était d'en arriver à offrir tellement de choix que tu avais besoin du conseiller avec toi qui passait une heure, qui te parlait de ton stress, ta job, ta famille, ta blonde, de tout et de rien. Puis by the way, on faisait une chemise, un complet ensemble, puis on passait un bon moment. Fait que c'est un peu l'expérience, parce que moi mon frère, on a travaillé dans la restauration quand on était plus jeune. Tu sais, l'effet « wow » dans un restaurant, puis tu sais, le petit souci du détail, ben c'est ce qu'on a ramené après ça dans le commerce de détail avec le brand sur mesure.
Puis, lancé en 2010, on l'a dit un petit peu plus tôt, mais c'est quand même allé vite, vos affaires. Donc, par la suite, je pense que très rapidement, vous avez eu votre première boutique que vous avez déménagée parce que c'était pas assez gros. Là, si je regardais un petit peu mes notes, je crois que c'est en 2012 qu'il y a eu une deuxième succursale qui est installée également à Montréal. Et par la suite, à chaque année, il y a eu des ouvertures, autant au niveau canadien, un petit peu plus tard, américain, également au niveau du Mexique maintenant. À quoi tu attribues une croissance forte comme ça? Comment vous l'avez commercialisé, cette business-là, un petit peu pour la faire connaître aussi rapidement?
Ben, tu l'as dit, là, c'est une business familiale. C'était moi, mon frère. On était sur la même longueur d'onde depuis le début. T'sais, c'était un full commitment. On n'avait pas une scène. On était hyper créatifs. On avait le même mindset à se dire, regarde, on donne tout ce qu'on a avec cette business-là. Tout ce qu'il faut faire va être fait, que ce soit dans le réseautage, que ce soit dans tout l'ensemble des processus qui avaient à être établis dès le jour 1. Il n'y avait rien qui existait là, dans ce qu'on faisait. Et tout devait s'inventer à tous les jours. Puis on était chanceux parce qu'on était extrêmement complémentaires. Fait qu'on a eu la chance d'avoir deux entrepreneurs pour le prix d'un. Tu sais, souvent, c'est un entrepreneur qui se part un job, ben, qui se part son projet. Nous, dans notre cas, on était vraiment deux avec ce même mindset-là. J'ai eu le bonheur de marier une comptable. Fait que ça, c'est sûr que ça accélère aussi une croissance parce que elle faisait partie intégrante du succès de sur-mesure aussi. T'sais. Fait qu'on est en arrivé à avoir les processus autant financiers que de l'opération de la business. Fait que oui, on a parti une première boutique en novembre 2010, mais c'était un an-ish plus tard qu'on ouvrait déjà Montréal. Puis c'est juste parce que, tu sais, à la base, mon père est entrepreneur aussi, entrepreneur en construction, puis il faisait les choses différemment. Tu sais, mon père, il voulait pas faire de la cabane à saucisses, là, dans le sens d'une maison avec le même modèle, puis faire ça. Fait que lui-même, tu sais, nous avait inspiré quand on était plus jeune. Il avait fait une maison en terre. C'est une maison écologique, mais on parle de ça il y a 25 ans. Fait que c'était extrêmement précurseur. Puis c'est un peu de ces expériences-là qu'on s'est dit, ben, nous aussi, on veut faire les choses différemment parce qu'on le voyait que ça pouvait avoir une belle plus-value. Fait qu'avec une première boutique à Québec, on pouvait se dire, ben, on en fait une autre à Lévis ou on en fait une à Drummondville ou, tu sais, plus en termes de proximité. Mais parce qu'on avait voyagé beaucoup, parce qu'on avait le goût du risque, on était jeunes, on n'avait pas d'enfants encore à l'époque, on n'avait rien. Fait qu'on s'est dit, garde, why not? On s'en va à Montréal. Si on est capable de partir à Montréal, après ça, on va être capable d'aller partout. Puis rapidement, on a fait cette deuxième boutique-là à Montréal qui a eu ce succès-là aussi escompté. Puis après ça, ben, on s'est posé la même question. Est-ce qu'on s'en va à Trois-Rivières ou on s'en va à Toronto? Et que l'année suivante, encore là, on sautait dans le vide à se dire, parfait, on s'en va downtown à Toronto puis on ouvre cette troisième boutique-là. Des fois, par exemple, quand tu vas vite comme ça, ça a aussi son lot de risques, je pourrais dire, où on avait peut-être moins bien perçu le côté anglophone. Parce que là, tu as, oui, un marketing à faire à ce niveau-là, mais aussi la gestion de ton personnel maintenant qui est rendu bilingue sur tout ce que tu as à faire. Et tu peux pas te permettre de juste dire, ben, OK, à partir de maintenant, on fait tout en anglais. Tu es au Québec, tu te dois de faire aussi tes affaires en français puis d'assurer cette langue-là aussi. Fait que ça a fait qu'on doublait du jour au lendemain l'ensemble de toutes nos opérations, nos processus, nos communications internes et externes. Fait que ça a été vraiment un bon step. Mais en même temps, c'est peut-être ce step-là qui nous a permis, d'après ça, d'avoir une croissance encore plus rapide. Parce que d'en arriver à se dire, OK, la base est settée après 2-3 ans, ben là, après ça, on n'avait pas peur d'ouvrir Ottawa ou de se dire, on s'en va à Vancouver ou on en ouvre une deuxième à Toronto. Fait que ça a été extrêmement plus rapide après ça, en ayant justement un peu la recette d'établi.
Puis ce qui est fascinant dans tout ça, puis j'aimerais que tu me corriges si je me trompe là-dessus, vous n'êtes pas allé chercher du financement externe, ou du moins pas des énormes montants, là. Comment
oui,
ça s'est fait tout
ça? Oui, un petit peu. Ben non, à la base, c'est Visa. On a foulé nos cartes. C'est comme ça que c'est notre meilleur VC. C'est une carte de plastique, elle n'a rien à dire, tu payes tes intérêts, c'est correct. Puis après, peut-être un an ou deux, là, on a eu la chance d'avoir quelqu'un dans notre famille qui a au moins mis toutes nos dettes en même place. Fait que là, au moins, on avait un second souffle, je pourrais dire. Mon père nous a aidé un petit peu aussi. Mais malheureusement, on est dans un modèle d'affaires, justement, des fois, un peu trop innovateur avec ce qu'on faisait. On vend de l'air. Donc, au terme bancaire, pour les institutions traditionnelles, c'est extrêmement difficile pour nous d'aller chercher des capitaux parce qu'on n'avait absolument rien dans nos boutiques. On avait beau avoir un beau top line, puis on était en croissance, puis sur mesure allait, il va super bien, mais en même temps, on réinjectait constamment tout notre cash flow. C'est une gestion de cash flow là, dans le commerce de détail. C'est ce qu'on faisait au jour le jour. Fait que d'en arriver à ça, à un moment donné, pour avoir les moyens de ses ambitions, qu'on pourrait dire, on cherchait pas du financement, mais l'histoire est quand même drôle où un jour, j'ai eu un mot sur Facebook d'un gars qui me disait hey, « Wow, c'est vraiment là ce que vous faites. J'aimerais ça investir dans votre compagnie. » Le gars, il était basé au Mexique, justement. Fait que moi, j'ai juste lancé à POC à mon frère, qui lui a rendu là, il était rendu à Toronto. On avait 3 boutiques à cette époque-là. J'ai dit, gars, j'ai pas le temps de gérer ça, là. Check avec. C'est probablement juste un wearer ou peu importe. Puis bref, le gars est allé à Toronto rencontrer mon frère. Puis ça se voulait une famille mexicaine qui avait relativement beaucoup de moyens, qui avait beaucoup de compagnies en opération, qui avait rien dans le commerce de détail. Puis voulait un nouveau style d'expérience de produit, un peu comme ce que nous on offrait. Et bien, ce jeune-là dans cette famille-là, Adrian, c'était un peu son projet, son bébé au sein du groupe familial. Et bien, on a accepté, justement, on a levé 2 millions avec cette famille-là. Ça fait peut-être 5-6 ans maintenant. Ça a été un des plus bons coups pour nous, autant qu'on ne cherchait pas nécessairement des capitaux, mais ça l'a accéléré notre croissance, c'est certain, parce que là, du jour au lendemain, on pouvait ouvrir plus de magasins, on pouvait injecter plus dans notre technologie. C'est certain que ça a eu un aide. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans, on a aussi une boutique à Mexico, en desservant l'ensemble du pays là-bas, en étant là avec des vendeurs sur la route, qui nous permet là, d'avoir une super belle profitabilité là-bas.
Intéressant. Très intéressant même. Puis là, j'aimerais ça que tu me dises, à un certain point, quand vous ouvrez autant de succursales, on l'a dit, vous êtes rendu à 10 aujourd'hui, vous devez avoir un certain playbook, un certain plan de match d'ouverture, un plan de match de commercialisation d'une boutique à l'autre. Peux-tu nous dire comment vous voulez faire ces choix-là, ces sélections-là d'une ville en vous disant, OK, cette ville-là risque d'être fonctionnelle à cause des apprentissages qu'on a vus dans le passé, à cause de notre plan de match pour l'ouverture d'une ville? Est-ce qu'il y a ça qui a été bâti chez Sur Mesure?
J'aimerais te dire que oui, mais là, ça, c'est pas mal ce qu'on fait. Là, on fait ça mal. Puis là, on fait, ouais, OK, ça fait du sens. On s'en va dessus là.
Mais j'avais vu que t'avais fait une... je pense que t'avais fait une game de basketball maintenant avec ton frère. Ça se peut-tu? J'ai vu une vidéo passer, puis selon le gagnant disait que, bon, moi, je joue au Pittsburgh, puis toi, t'es au Philadelphie, ou quelque chose comme ça. Là. J'avais vu une vidéo passer sur les réseaux sociaux.
Je serais très drôle. Laquelle de nos premières boutiques serait aux États-Unis? On avait soit Pittsburgh ou Chicago. Fait qu'on s'est juste filmé à faire un contre un. Puis le gagnant pouvait dire la boutique qu'elle allait ouvrir en premier. Fait que, mais tout est une question de plaisir. Tu sais, nos valeurs chez Sur Mesure, là, c'est be creative, take action, having fun, be better. Fait que, tu sais, le having fun est extrêmement important. Tu sais, ce cercle de valeurs-là, là, si je prends une petite seconde, est vraiment important. Puis c'est un peu dans les fondements de Sur Mesure où on pousse l'ensemble de nos gens à avoir des bonnes idées. Bien, c'est cool d'avoir des bonnes idées, là, mais il faut qu'à un moment donné, tu passes à l'action puis t'effaces. Puis si tu fais ces actions-là puis tu as du plaisir à le faire, là, ça devient un cercle où les gens veulent faire une action puis une autre. Puis c'est fou le nombre de proactivité qu'il y a à l'interne maintenant avec l'ensemble de nos employés parce que c'est un mindset justement à avoir les idées puis à les faire. Puis surtout, c'est pour ça qu'on a ajouté cette quatrième valeur-là, be better, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de faire des affaires, mais tu t'améliores aussi dans tes processus et tu deviens meilleur aussi personnellement et professionnellement dans ce que tu fais. Fait qu'en nous faisant même, tu sais, en tant qu'entrepreneur, en étant au sein de cette compagnie-là, bien, en faisant des affaires un petit peu folles, tu sais, on fait des parties pour l'ensemble de nos entreprises, on s'assure justement du bien-être de nos employés, bien, ça fait que nécessairement, cette business-là croît. Si tu investis dans tes employés, nécessairement, cet investissement-là paye pour ton entreprise au final.
C'est totalement vrai. Je ne peux dire quelque chose de différent de ça. J'aimerais revenir un petit peu. Bon, la croissance a l'air de bien aller. Vous ouvrez plusieurs succursales, puis bon, c'est inévitable de parler un petit peu de ça. La COVID nous est rentrée en plein visage pour beaucoup d'organisations, spécifiquement les entreprises du commerce, au commerce de détail, restauration, hôtellerie, etc. En mars 2020 que c'est arrivé, on est en avril 2021, aujourd'hui bientôt au mois de mai, c'est toujours d'actualité ce qui se passe dans le monde. Là, j'ai reçu énormément d'entrepreneurs dans la dernière année qui nous ont parlé de comment qui ont contourné le COVID, de comment qui ont pivoté, mais je pense que dans tous ceux que j'ai reçus, ton pivot, c'est le plus exceptionnel de tous ceux que j'ai entendus et j'aimerais que tu en parles un petit peu avec l'audience. Donc, pour situer un peu les gens aujourd'hui, sur mesure, vous avez fait un 360 en quelques jours même, peut-être même une nuit, en quelques soirées et vous avez commencé à vendre des masques, mais vous en avez vendu beaucoup, énormément. Peux-tu nous dire un petit peu là cette histoire-là qui est assez formidable?
Ouais, ben... Pour nous, le COVID a commencé en janvier. Nous, nos fournisseurs, c'est beaucoup des compagnies asiatiques, beaucoup basées en Chine, qui font nos vêtements, que ce soit à Hong Kong ou en Chine mainland. Fait que, pour l'assemblage. Fait que nous, en janvier, on avait déjà la fermeture de ces usines-là. Fait qu'on écopait déjà un petit peu du rebond de ce qui se passait là-bas. On devait expliquer à nos clients ici, ben là, avec la COVID, ça, il va y avoir un certain délai pour les livraisons. Et le gouvernement chinois a mis en place justement des initiatives pour pousser les manufacturers à commencer à faire de la production de masques, justement. Puis ça leur permettait en même temps de pouvoir recommencer leur ligne de montage traditionnelle s'ils faisaient aussi ce type de produit-là que le gouvernement chinois. Et après ça, ben, on a vu que la planète entière en avait besoin. Fait qu'il y a eu cette initiative-là. Fait que nous, on avait juste eu les échos de ça en janvier-février que nos compagnies, nos manufacturiers faisaient des masques à l'époque. C'est sûr qu'il faut se ramener en janvier, février, mars l'année dernière. Le masque, on voulait pas le porter. Là. C'était même mal vu que de porter des masques. Et nous, on écoutait ça un peu de loin en se disant, bon, on n'a pas vraiment grand-chose à faire avec ça. Les boutiques vont bien, il n'y a rien de fermé. Ça viendra peut-être probablement même pas en Amérique du Nord, cette affaire-là. Fait que tout était beau. En mars, en mi-mars, c'était drôle parce que nous, on était au Mexique. On avait le mariage justement de notre collègue là-bas qui se mariait à la mi-mars, 14 mars, pour être franc. Gros mariage, 400 personnes à Guadalajara, la totale. Tu sais, c'était extraordinaire. Je ne sais pas si tu as déjà vu Crazy Rich Asian, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, ouais.
Tu sais, ben, c'était de cette scène-là. C'était extraordinaire. On était partis autant avec notre directeur général de sur mesure, avec quelques employés clés, tous nos gens. Fait qu'on avait même décidé de partir quelques jours avant. Vraiment se dire, regarde, on décompresse, on a eu une grosse année, puis de là, ben, on s'en va décompresser, on s'en va fêter. Fait que, tu sais, moi, je suis parti du Québec le 8 mars, où ce que c'était pas encore la crise à ce point-là pour se demander, genre, est-ce que je pars ou est-ce que je pars pas? On est parti, fait qu'on a vécu une extraordinaire aventure. Mais en même temps, là, on commençait à avoir les échos. Et là, on commençait à avoir nos boutiques qui commençaient à être inquiets. Là, tranquillement, la COVID arrivait en Amérique du Nord, des cas à New York, des cas un petit peu partout. Et là, on commençait à s'empresser. Fait qu'on s'est fermé les yeux le 14 mars au soir en se disant, on est dans notre bulle, on vit le party le plus intense possible. Fait que on se touchait, on dansait, on se frenchait, tout ce qui était possible. On mangeait dans le buffet, c'était extraordinaire. Puis on s'est dit, ben, on sait pas quand ça va être la prochaine fois qu'on aura le droit de faire ça. Mais ce soir, on le vit comme il faut. Fait que là, on a vécu ça. Manage à distance, un crash monumental. Et on arrive le 16 mars. On retourne à la maison. Fait que là, on est dans un 2 semaines de quarantaine obligatoire. Puis comme beaucoup de gens, on devait en arriver à avoir les personnes, excuse, les enfants à la maison. Faut travailler à la maison parce qu'on a notre 2 semaines à faire. Moi, j'ai 3 jeunes enfants. Mon frère en a une. Fait que l'ensemble de la direction chez Sur Mesure ne pouvait même pas aller au bureau. Et dans le bout, tu sais, du 18, 19, 20, ben là, il fallait commencer à fermer nos magasins. Il y avait des États comme, mettons, la Colombie-Britannique qui fermait. Puis là, on voyait, mettons, des Nike, des très grosses entreprises qui fermaient leurs portes aussi. Fait que là, on était challengés à se dire, nous, est-ce qu'on ferme? Tu sais, on a l'éthique de se dire on ferme, mais en même temps, on n'avait pas les reins assez solides pour se dire qu'on pouvait se permettre de fermer. Tu sais, nous, notre grosse période est de mi-mars à mi-juin. Et là, on recommençait à avoir un cash flow qui serait intéressant parce que là, on étirait nos dettes avec nos différents fournisseurs. Et là, on arrive le 19-20 mars à se dire, là, on est shut down. On fermait là, 80%, 90% à remercier notre staff. Il restait juste quelques personnes là, pour faire le traitement des commandes et tout. Fait que là, un soir, moi, je suis dans mon lit à me poser la question, what the fuck, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis, 3 heures du matin, je me réveille, puis j'ai juste l'idée de me dire, regarde, on avait les mars, tu sais, qu'on se parle depuis une couple de jours, moi et mon frère, on se disait, peut-être de quoi faire avec ça, tu sais, on pourrait faire une promotion, achète une chemise, un paquet de masques, ou tu sais, on se savait pas trop, là, on brainstormait n'importe quoi. Et là, on s'est dit, bah, c'est beau, tu sais, ou sinon, on avait une accessibilité aux masques, tu sais, nous, en fait, on avait un 500 000 masques de disponibles pour nous. Puis là, on se disait, ben, est-ce qu'on essaie de targeter des pharmacies? Tu sais, enfin, on est en train de se brainstormer une deuxième entreprise de masques, alors que là, on est en chute de notre propre entreprise. Tu sais, on avait besoin de focus aussi à se dire, attends un peu, là, on peut pas faire ça, là, commencer un nouveau startup. Et que dans la nuit, je me suis juste dit, ben, tabarouette, je vais au moins poker le gouvernement, puis voir, Christy, ils en ont tellement de besoins, peut-être qu'on peut les aider, puis en même temps, ben, ça va nous aider par la bande. Tu sais. Fait que, dans la nuit, j'ai juste cherché les organigrammes du gouvernement. Tu sais, je connaissais rien à la façon qu'ils travaillaient. Trouve quelques noms, trouve leur email. Je me dis, ah, ça doit être des decision makers. On y va avec ça. 3 heures du matin à 5 heures le matin, je vais me recoucher, bien fier de ma chaîne. Je me dis, bon, je pense que j'ai aidé ma compagnie. Tu sais. Je vais me recoucher à 7 heures du matin. J'avais déjà un premier retour de email. À 9 heures le matin, j'avais un premier call. Puis là, ben là, ça a commencé. Tu sais. Fait que là, on a eu, nous, à acquérir l'ensemble de la connaissance, là, parce que je disais que j'avais des N95. J'avais même pas des N95. Là. On avait des masques de chirurgicaux, de procédures là, réguliers, là, les masques bleus là, que tout le monde porte maintenant. Et ben rapidement, on se dit, ben, OK, nous, on a une accessibilité pour 500 000 masques. Puis là, de là, ben, ça a commencé. Ils nous passent une première commande de 5 millions de masques. Là, on fait comme, oh, les macarons, tu sais, wow, tu sais, on l'a. Là,
10 fois la capacité, là.
Ouais, parce que eux, dans le fond, on était capable de faire 500 000 masques par jour. Fait qu'on était capable de livrer ça en une semaine et demie, tu sais. Puis il faut comprendre aussi que nous, dans notre logistique, c'était beaucoup avec UPS, FedEx, DHL. Donc, ces transporteurs-là, ben, on faisait déjà de grandes affaires avec eux. Fait qu'on avait un accès privilégié. Fait que rapidement, ben, on était capable de livrer la marchandise dans ces premières commandes-là. Ce qui a probablement donné confiance au gouvernement pour par la suite, ben, peut-être nous donner d'autres contrats parce que rapidement, une semaine, on avait déjà commencé à livrer ces quantités-là. Et là, ben là, on est arrivé avec un autre 5-6 millions de masques, puis un autre 2 millions, puis tout. Puis là, à un moment donné, ben là, ça a juste grandi. Fait qu'au final, tu sais, de mi-mars à la fin mai, ben, tu sais, c'est 200 quelques millions de masques qu'on a vendus pour le gouvernement. On a commencé à faire des blouses de médicales aussi avec eux, on les aidait. Nous, dans le fond, tout ça était basé sur ce succès-là grâce à notre bureau en Chine, d'avoir les gens de confiance là-bas, le réseau d'affaires qu'on avait, surtout mon frère avait bâti au cours des dernières années en Asie, nous a permis de leverager cet acquis-là qu'on avait avec une chaîne de transport. Puis là, ben, on a commencé justement à être capable de faire ce grand coup, on pourrait dire. Fait que, ça a été une expérience où, oui, rapidement, on n'était plus capable de livrer avec UPS, FedEx. Fait que là, du jour au lendemain, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va commencer à louer nos propres cargos. Fait que, on commençait à louer nos propres avions. On en a loué une vingtaine. Les plus gros au monde, tu sais, des Antonov, des A380. On savait même pas ce qu'on louait, là. Nous, on connaissait rien à l'aviation. On connaissait pas ces nombres de d'avions-là. On faisait juste les maths à se dire combien que ça rentre de caisses de masques, combien ça coûte, ça fait-tu du sens, go, on y va, tu sais. Fait qu'on a été en mode comme ça, gestion de crise pendant 3 mois. Puis après ça, ben là, tranquillement, ça s'est estompé. Puis là, ben, l'ensemble du marché a repris une certaine stabilité. Nous, ben, on s'est juste retiré de l'ensemble de ces opérations-là. Où ce que là, tranquillement, ben, on est plus revenu là, avec sur mesure la gestion quotidienne de toutes nos entreprises. Et on est rendu là.
Intéressant. Incroyable même. Mais là, je voudrais revenir là, la location d'avion. Donc, bon, on va reprendre un petit peu où est-ce que tu étais. Tu as envoyé un email au gouvernement rapidement, clairement. Bon, il y avait de la demande, là. Les gens au gouvernement voulaient avoir des masques rapidement. Donc, ils ont été rapides sur la gâchette de te répondre, de placer des commandes. Mais parle-nous un petit peu de ce laps de temps-là entre une réponse du gouvernement, j'imagine un dépôt de leur part, contacter ton équipe en Chine, la construction des masques. Parallèlement, trouver des avions qui vont remplir. Comment que ça se passe? Combien de temps que ça prend tout ça, là?
Ben, ça prend du temps, mais c'est parce que, tu sais, faut que tu comprennes, on travaillait 22 heures sur 24, là, tu sais, c'était constant, parce que c'était soit sur l'heure de Chine, tu sais, d'Asie, ou c'était ici à gérer le reste de la poutine. Fait que, tu sais, mon frère, c'est drôle, son téléphone, à un moment donné, il y avait une semaine, ça avait dit qu'il avait été en moyenne 18 heures de temps sur son téléphone, tu sais, fait qu'il était constamment sur WeChat, parce que c'est beaucoup comme ça que ça marche, là, en Asie. Fait qu'il était constamment sur tout ce qu'il avait à gérer l'ensemble de la logistique de transport. Puis, ben, tu sais, comme je te dis, c'est que ça s'est fait, là, tu sais, tu livres un premier million de masques, ben oui, c'était correct, là, avec un UPS, FedEx, là, mais en moment donné, c'est juste que là, on avait tellement de demandes, on avait tellement de capacités parce qu'on avait une chaîne de production asiatique qui était relativement d'une bonne ampleur. On pouvait faire 5-6 millions de masques par jour, là, en production. Fait que là, après ça, de ramener ça ici, ben là, c'est là qu'à un moment donné, on a pogné un mur où là, il faut trouver une autre solution parce que ça ne pouvait plus fonctionner. C'est comme ça qu'avec un réseau d'affaires, on a utilisé beaucoup Kronos Aviation, qui est une autre compagnie de Québec, mais qui est spécialisée avec ses propres avions. Fait qu'eux nous ont aidés à trouver d'autres compagnies aériennes pour faire ce type de cargo-là. C'est grâce à eux, entre autres, aussi, qu'on a été capable d'acheminer tout ça. Puis grâce au fait que, tu sais, on n'était pas dans les grosses villes chinoises. On n'était pas à Shanghai, on n'était pas à Beijing. Nous, on était à Qingdao, que ça s'appelle. Et ça nous a permis aussi d'avoir une certaine flexibilité où est-ce que c'était pas aussi jam-pack, que je pourrais dire, que ces grandes villes-là en termes de vol aérien, où est-ce que c'était à 400% de... Il y avait tellement de monde là-bas, là, fait qu'il fallait attendre énormément. Puis, tu sais, les heures, les minutes pour atterrir et décoller, tout était vraiment calculé. Ou avec Qingdao, on a pas eu ces problèmes-là. Fait que l'ensemble de nos vols ont super bien été. On a été vraiment chanceux à ce niveau-là en faisant les choses encore un peu différemment. On se faisait challenger. Là, tout le monde disait, personne ne fait ça de Qingdao. Il faut que vous alliez à ces endroits-là. Mais nous, sans dire qu'on était bloqués, on s'est dit, ben, s'il y a une viabilité puis on peut le faire, en ayant notre équipe justement en Chine qui nous disait, ça peut se faire, ben, on leur a fait confiance une fois de plus puis ça a fonctionné. Fait que, tu sais, je pense que ça a été un apprentissage où, tu sais, c'était 3 mois, mais qu'on a tellement travaillé non-stop que ça aurait pu être un an. Là. On n'aurait jamais été capable de garder cette cadence-là aussi longtemps. Puis, tu sais, je félicite beaucoup en ayant eu ce petit peu de temps-là avec le gouvernement, tu sais, à voir comment eux travaillaient parce qu'ils étaient dans une gestion de crise. Tu sais, eux sont là-dedans là, depuis un an et demi. Là. C'est fou, là. Tu sais, nous, on l'a juste fait 3 mois, puis ça a été go, go, go. Eux, ça fait un an et demi qu'ils sont comme ça, où chaque étape, que c'était le sourcing de masques, là, c'est la vaccination, il y a constamment quelque chose qui arrive. Ça doit être complètement débile. Fait que, autant que je pensais pas dire ça dans ma vie, mais tu sais, chapeau, en tout cas à l'interne ou au gouvernement, de la façon qu'ils l'ont fait, parce que c'est sûr que c'est un état de crise. Est-ce que ça aurait pu être planifié? Tu sais, on pourrait repartir dans plein d'autres débats là, sur la façon pourquoi on est arrivé là. Mais de ce que j'ai vu avec l'interne, tu sais, je peux avoir des appels avec eux à 10 heures le soir. Tu sais, jamais je pensais faire ça avec eux. Ou c'est nous, justement, c'était commun. Fait que ça a été justement un beau travail d'équipe. Autant, oui, avec la Chine, avec nous ici, on était juste moi, mon frère, ma blonde, on a travaillé là-dessus, mais aussi avec les approvisionnements qui nous aidaient aussi dans tout ce processus-là.
Puis, si on regarde là, au final, les chiffres finaux de tout ça, combien de masques avez-vous livré? Combien que ça a représenté, ces commandes-là du gouvernement?
Ouais, ben tu sais, nous, on a gardé ça sans dire secret. Là, nous, on a fait ces 3 mois-là, puis après, on a comme fait « Oh, les macaroni, qu'est-ce qui vient de se passer ici? » Fait que, tu sais, parce que, tu sais, même les premiers transferts, notre banquier nous a appelé, là, nous a dit, qu'est-ce qui se passe avec vous autres, là? C'est quoi cette affaire-là, là? Vous êtes supposé être en train de crasher. Puis là, vous commencez à faire des transferts de millions et de millions. Qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, il a fallu débloquer ça aussi, puis débloquer aussi avec la Chine. Fait que, tu sais, on a gardé ça sous silence pendant le plus longtemps qu'on a pu. Juste parce que, tu sais, on voulait pas se féliciter pour ça. On voulait pas se sentir se jinxer, tu sais. On a quand même livré des masques jusqu'à Noël, là, tu sais, l'année passée. Fait qu'on était focus à faire nos affaires sans justement mettre ça de l'avant. Mais vu que c'est des contrats publics, ça l'a sorti, justement, là, public, sur les sites du gouvernement. Puis là, ben, c'est là que les journalistes ont commencé à mettre la main dessus. Puis ils se sont rendus compte que, tu sais, on était rendu le 3e plus gros importateur de stock médical, là, tu sais, avec 2 grands joueurs déjà existants. Là, ben, t'avais Thériault International, tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, fait qu'avec un chiffre d'affaires de 255 millions, c'est qui eux autres? Tu sais, fait que là, ben, là, ça a commencé à gratter, puis c'est là que nos noms ont sorti. Fait que, tu sais, on était fiers dans un sens d'avoir fait tout ce qu'on avait fait. On voulait pas nécessairement se mettre sur le piédestal en se disant « Hey, wow, on est malade, checker ce qu'on a fait. » Fait que c'est juste arrivé comme ça, où ce que là, ben, aujourd'hui, on se parle parce que tu en as entendu parler justement dans des journaux ou avec quelqu'un, il y a Alec Castonguay qui a écrit un super livre sur la première vague. Super bon livre d'ailleurs, parce que ça va très large dans tout ce qui s'est passé au sein du gouvernement. Bien, il y avait un chapitre qui a été fait sur nous, justement, puis toute notre épopée, justement, avec l'importation massive de masques. Et bien, c'est ça. Fait que, tu sais, 255 millions, c'est complètement débile à gérer ça, mais tu sais, ça rentrait puis ça sortait aussi vite. Tu sais, il fallait payer des fournisseurs, il fallait payer plein de choses. Fait que c'est certain que ça a été juste la transaction rapide à faire. Mais c'est certain que quand tu reprends du recul puis tu fais, OK, gérer un chiffre d'affaires comme ça, tu sais, je pense que ça a été grâce à nos 10 ans chez Sur Mesure qu'on a été capable de faire quelque chose comme ça. T'sais, on a eu un certain moment à se demander, on est-tu dans le syndrome de l'imposteur? On a-tu juste été chanceux? T'sais, on était juste à la bonne place au bon moment ou parce qu'on avait le réseau de contact, parce qu'on avait les processus en place, parce qu'on avait quand même un côté entrepreneurial fort, mais avec une certaine bonne intégrité aussi, t'sais, à gérer autant que ça, on aurait pu encore plus en profiter ou faire des choses un petit peu grises, comme on pourrait dire, mais t'sais, on a fait ce qu'on avait à faire de la façon dont on l'a fait avec nos meilleures de nos capacités. Puis ben, c'est ce que ça a donné de le faire aussi rapidement. Fait que c'est sûr que du jour au lendemain, ça change l'ensemble de nos processus. Ça a assuré premièrement la pérennité de Sur Mesure. Ça, c'est la première bonne nouvelle. T'sais, on a gardé nos emplois. C'est certain que là, on est loin de refaire les chiffres de Sur Mesure aujourd'hui. On est peut-être rendu, on était 105 employés, on est rendu peut-être 50, 55. Les boutiques sont toutes restées ouvertes. Malheureusement, on a fermé Chicago. Chicago, on a utilisé la COVID pour la fermer. C'est un petit peu plus difficile. Le loyer était très, très dispendieux. On n'avait pas été capable de faire la traction à cet endroit-là. Fait qu'on a fermé celle-là. Sinon, l'ensemble du reste des magasins sont ouverts. Donc, on est extrêmement fiers de pouvoir maintenant penser à long terme. C'est-à-dire, au-delà de la COVID, qu'est-ce qui va se passer? On n'est plus au jour le jour à se demander, bon, est-tu correct, on n'est pas correct? Non. C'est what's next? Qu'est-ce qu'on va faire qu'on va amener Sur Mesure à un autre niveau? On a la chance d'avoir aussi un excellent DG, directeur général, Louis-Charles Plante, qui est avec nous depuis 9-10 ans bientôt, et qui prend en charge justement l'ensemble des opérations de Sur Mesure pour l'amener à la prochaine étape.
Puis pour les gens qui nous écoutent un peu aujourd'hui, Vincent, bon, ça peut paraître gros, là, et c'est gros également, 255 millions de chiffre d'affaires de masques là, qui est arrivé en 2020. Mais si on fait juste un comparatif brièvement, Sur Mesure ne faisait pas des chiffres d'affaires de cette ampleur-là avant. Là. On est sur quelque chose de totalement différent. Là.
Non, tu sais, Sur Mesure, on a aussi une compagnie de tissus qui s'appelle Terrio International, dans le fond, qu'on a utilisé pour faire cette importation-là. On a aussi une compagnie qui s'appelle MTM Design, donc c'est un SaaS qui offre un peu le back-end de Sur Mesure, mais à l'ensemble de notre compétition aux États-Unis. On est gentil comme ça avec notre compétition, on leur donne notre recette. Puis fait que tu sais, juste toutes ces compagnies-là, ben, tu sais, c'est ça, on joue entre 12, 13, 14 millions de chiffres d'affaires annuels. Tu sais, quand tu arrives à passer à l'autre cap, c'est ça, c'est massif. Là, tu sais. Puis gérer ça à 3 personnes, dans le sens que on n'avait pas, tu n'as pas d'entrepôt, tu n'as rien, là, tout a été juste de la manutention, puis à gérer des bons de commande, puis s'assurer que tout était au niveau. Puis surtout, tu sais, dans la technicalité du produit, tu sais, quand tu joues avec du médical, c'est là qu'on a appris énormément pour s'assurer que ce qu'on avait était exactement ce qui devait se faire. Fait que c'était beaucoup de contrôle qualité, principalement en Chine, avant que ça s'en vienne ici. Fait que ça a été quand même un apprentissage pour nous. Puis je pense que on a revécu le start-up qu'on a vécu peut-être la première année, tu sais, la frénésie d'un start-up d'une première année, cette croissance-là, ben là, on l'a eu là, une étincelle pendant 3 mois de temps avec Terrio.
Puis, bon, vous avez décidé de retourner à vos affaires avec Sur Mesure, avec vos autres projets par la suite. Ça vous a pas tenté de continuer pendant quelques mois? Parce que, bien entendu, vous l'avez vu à ce moment-là, la COVID n'était pas terminée. Peut-être qu'il y avait encore des opportunités de faire des affaires. Comment que ça s'est déroulé la fin de tout ça?
Mais c'est sûr qu'on a fait le gouvernement, mais on a fait aussi beaucoup en parallèle du corporatif là, traditionnel. Là. Fait que, on a commencé à vendre à tout le monde aussi. Là. Fait que on a utilisé différents réseaux de distribution. Et on a été dans des grandes chaînes de restauration. On a été dans du commerce de détail traditionnel. Fait que nos masques ont été vendus un petit peu partout aussi. On a quand même joué avec ça. Mais rapidement, comme je te disais, c'est qu'à un moment donné, ça s'est rétabli. Cette crise-là est revenue un peu normale où l'abondance justement de masques et de d'autres trucs est arrivée avec, oui, les compagnies établies, parce que eux, leur chaîne justement de logistique était beaucoup faite sur des containers. Tu sais, ça arrive en container, ça prend 3-4 mois, ben 1-2 mois, puis ça arrive ici. Fait qu'à un moment donné, le marché est juste revenu à la normale. Fait que nous, on était vraiment dans le coin de la crise, puis on n'avait peut-être pas justement toutes les forces, puis la différenciation de, à un moment donné, quand tu arrives avec un marché qui devient tellement saturé, là, on voulait plus se battre pour du sans risque en avoir à vendre pour des mini-marges, puis ça vaut plus la peine. Fait qu'on s'est tout simplement dit, ben, regarde, on finit ce qu'on fait, on va finir en bonne et due forme tout ce qu'on a commencé, mais après ça, pour nous, c'était pas une passion que de vendre des masques, là. C'était vraiment pas à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça qu'on a dit, ben, on arrête ça. Autant qu'on adore l'import-export en général, tu sais, on le fait avec du vêtement sur mesure depuis des années. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on va toucher un petit peu plus, mais pas de la sorte avec Terrio International.
J'aimerais parler brièvement, là, te mentionner, j'en reviens un petit peu à sur mesure, que bon, toute l'intelligence que vous avez bâtie au cours des dernières années pour la livraison, un petit peu la logistique interne, vous avez pris cette information-là, vous avez bâti un logiciel SaaS qui maintenant dessert la majeure partie de vos compétiteurs. C'est quoi un petit peu la naissance de ça, la genèse de ce projet-là?
Ben, tu sais, tu parles tantôt, là, OK, on a, hey, wow, belle croissance, on a eu 10 succursales. Tu sais, 10 succursales, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps. Tu sais, on n'est pas une chaîne de 300 magasins établis dans toutes les petites villes du Canada. C'est pas ça notre modèle. Tu sais, nous, on est allé vraiment avec, on a nos différents points de vente, principalement au Canada. On a essayé les États-Unis. Les États-Unis, c'était quand même différent. Tu sais, on a Pittsburgh, Chicago. Chicago n'a pas marché. Fait qu'il nous reste juste Pittsburgh en ce moment. Et qu'on s'est dit de quelle manière est-ce qu'on pouvait continuer à avoir cette vision-là de grandeur. Comment est-ce qu'on pouvait s'assurer de croire, d'avoir de quoi qui est intense puis qui peut nous amener ailleurs. Puis on s'est rendu compte qu'au cours des 10 dernières années, on avait bâti une qualité de knowledge au sein de sur-mesure en s'entourant de passionnés du vêtement. Mais tu sais, du vêtement autant au niveau technique que du niveau du style. Fait qu'en ayant tout ça, puis ben là, et moi, mon frère et l'ensemble de l'équipe, au niveau de la logistique. Fait qu'il faut comprendre que le made to measure, tu sais, fait que tout ce qui est du sur-mesure en Amérique du Nord, ou même à travers le monde, est hyper décentralisé. C'est un peu comme, tu sais, Couche-Tard, quand il a commencé, les dépanneurs, là, c'était tous des indépendants. Puis c'est en arrivé à un moment donné faire, ben, on va tout ramener ensemble, puis là, ben, on va avoir une très grosse compagnie qui est aujourd'hui Couche-Tard ou 7-Eleven ou des choses comme ça. Fait que nous, étant dans une industrie extrêmement décentralisée, on n'avait pas les fonds pour se dire, on commence à acquérir tout le monde. C'était pas notre modèle d'affaires. Mais on voyait très bien qu'il y avait une lacune dans leurs opérations. C'est des mom and pop shops. Ils travaillent dans des fichiers Excel, sur des PDF. Tout est fait à la main. Énormément de pertes de temps dans ce qu'il y avait. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pouvait en arriver à leverager sur toutes nos connaissances, sur notre façon de faire, sur notre volume power? Parce qu'avec sur mesure, même avec 10 boutiques, au Canada, on est peut-être dans le top 2-3. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, on est peut-être dans le top 5-10. On est quand même un très bon joueur dans ça, en ayant juste 10 magasins. Mais ça nous permettait après ça, avec tout ça, d'avoir un impact sur l'ensemble de l'industrie. Puis c'est ça qu'on a commencé avec MTM Design, qui se voulait toute notre logistique interne, toutes nos connaissances avec les tissus, tous nos contacts aussi avec ces différents tissus-là à travers le monde, que juste un magasin ne pourrait jamais se permettre de faire en termes de temps, en termes de capacité aussi financière. Et qu'on offre ça sur une plateforme SaaS, qui devient tranquillement un marketplace, parce qu'on commence aussi à avoir des manufacturers qui viennent d'un petit peu partout à travers le monde. Fait que oui, en Asie, on va en avoir une en Inde, au Portugal, en Espagne, en Italie, ici à Montréal. Fait que tranquillement, on est en train d'être justement cet écosystème-là de l'ensemble du made to measure. Puis peut-être un jour, ben, on va pouvoir caresser le rêve aussi d'avoir des plus grosses bannières qui vont rentrer dans ce type de modèle-là, parce que ça diminue énormément leurs inventaires, leurs risques. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer après la COVID avec des vestons, avec des chemises? On ne sait pas trop encore. Oui, les gens vont vouloir retourner au travail d'une façon peut-être 2-3 jours semaine. Les bureaux vont en avoir un petit peu moins. Mais il va y avoir encore beaucoup d'événementiels, du mariage. Il va y avoir d'autres choses aussi. Donc, personne ne sait où se situer. Puis en réduisant le risque, en utilisant un système comme le nôtre, bien, peut être vraiment un beau win-win pour beaucoup, beaucoup de joueurs. Et c'est pour ça que depuis 2 ans maintenant, on bâtit puis on a nos propres développeurs, on a une propre structure qui nous permet de grandir comme ça. Fait que, aujourd'hui, on est peut-être juste à une trentaine de magasins sur notre de clients sur notre magasin, principalement à travers les États-Unis, quelques-uns au Canada. Puis ben là, on voit aussi les impacts de la COVID où les États-Unis ont vraiment pas la même réalité que nous, où là-bas, tout est recommencé là, un petit peu plus à la normale, que je te dirais, avec ces différents magasins-là. Où est-ce qu'ici, tu sais, actuellement, mon magasin à Québec qui est fermé, tu sais, fait qu'on a une réalité complètement différente, puis qui nous a permis de continuer cette croissance-là, que juste l'ouverture simple de boutique, tu sais, qui a quand même un gros cost, là. Ouverture d'une boutique, c'est peut-être 300-400 000, tu sais. Fait que, mais là, au moins, avec ça, on est capable d'avoir une belle expansion. On a mis un vendeur, on a mis l'expertise, puis là, ben, on grandit avec cette nouvelle bébite-là aussi, là.
C'est-tu ça un peu le futur que vous voulez mettre davantage de vos énergies ou par la suite, vous voulez continuer puis mettre davantage de temps, d'argent sur mesure, ouverture de succursale?
Je pense que ça va être un mix des deux. J'aimerais ça quand même. C'est pas tant un nombre de boutiques que être le meilleur, t'sais, être la référence. T'sais, c'est baser une référence là, t'sais, dans ton marché. Puis je pense que beaucoup de l'économie aujourd'hui ne sera plus nécessairement tout le temps basée sur le top line qui va aller, mais vraiment plus circulaire aussi. T'sais, on le voit dans la sustainability, puis on vend du vêtement sur mesure. Fait à la base, on se veut un petit peu plus éco-friendly dans notre approche où la qualité du service, mais aussi du vêtement que je vais te procurer. J'ose croire que ce vêtement-là va être dans ta garde-robe encore 2, 3, 4, 5, 10 ans si tu continues à jogger. Tu n'as pas encore d'enfant, là, tu sauras me le dire dans une couple d'années si tes sauts te font encore, mais j'ose croire qu'au moins pour la qualité du saut, lui, il va être encore là. T'sais. Fait que dans cet esprit-là, sur mesure, est-ce qu'on peut être le meilleur au Canada? Ouais. Tu sais, je pense que le focus premier va être vraiment à ce niveau-là. Premièrement, on va revenir de la COVID. On va revenir au point où est-ce qu'on était. Puis après ça, on va être capable de grandir. Mais oui, je pense que ça va être un mix des deux. Puis c'est pour ça qu'avec ces deux compagnies-là, qui restent quand même frères et sœurs, qui sont différentes parce qu'une joue un peu avec la compétition de l'autre. Tu sais, fait qu'il y a un certain... c'est quand même fragile à ce niveau-là parce que, tu sais, c'est pas vrai que MTM va aller divulguer l'information à sur mesure sur l'ensemble de la compétition. Tu sais, on a quand même créé là, un mur à ce niveau-là. C'est pas les mêmes employés, c'est autre chose. Mais c'est certain qu'il y a une belle opportunité avec MTM à croître beaucoup plus, oui, organiquement, mais aussi d'une façon beaucoup plus exponentielle parce que l'ouverture de magasins de clients coûte quasi rien. Tu sais, fait qu'on focus actuellement aux États-Unis. Mais rapidement, il va y avoir le Mexique et l'Europe, et après ça, ben, ça va être l'Australie, le reste du monde. Fait que ça reste un beau SaaS traditionnel dans la belle techno pure. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi de voir ça. Fait que dans les deux, les visions sont un petit peu différentes, mais on aime croître, puis on est ici à hyper croissance. Fait que c'est sûr que faut que je te parle de croissance. Je ne te dirais pas que je fais du statu quo, puis c'est pas dans notre mindset entrepreneurial, mais ça va être à deux différents niveaux.
C'est intéressant ce que tu dis. Récemment, on interviewait le fondateur de Bon Look qui nous a dit littéralement la même chose que tu viens de nous dire. Donc, Bon Look ont ouvert, je pense qu'ils sont rendus à 37 succursales maintenant à travers le Canada. Puis, bon, ils continuent leur croissance, comme sur mesure, continuent sa croissance, mais ils ont été capables de se rendre compte au cours des dernières années que leur tech interne était tellement puissante comparativement à ce qui se faisait dans le marché qu'ils allaient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puis c'est même déjà enclenché, prendre cette tech-là et aller la vendre à leurs compétiteurs pour que leurs compétiteurs améliorent leur logistique interne. Donc, c'est intéressant ce mécanisme-là. Hein, quand on fait tellement d'intelligence sur ce qu'on fait au cours des dernières années, on crée littéralement un profit center à l'intérieur de notre organisation qui devient une autre entreprise sans même l'avoir créé littéralement. C'est créé ben, un petit peu toute seule.
Tu l'as dit, tu sais, là, ça a l'air bien beau comment je te le dis, mais à base, on a juste sorti les techs de sur-mesure pour le rendre profitable. Parce que là, à un moment donné, ça faisait pas de sens. Là, c'est un gros trou noir, puis tu fais juste mettre de l'argent là-dedans. Puis là, tu vois que oui, pour ton interne, pour sur-mesure, c'est vraiment fantastique. Mais là, le ratio de coût-bénéfice, à un moment donné, fait peut-être même pas de sens. Fait que là, après ça, de pouvoir le partager sur une industrie au complet, ben là, c'est sûr que ça devient vraiment intéressant. Fait que c'est exactement le même thinking qu'on a eu à ce niveau-là.
Intéressant. Je terminerai des petites questions personnelles, Vincent. Donc, est-ce que tu lis certains livres d'affaires, surtout en moment peut-être de COVID, qu'il fallait trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées aux enjeux rencontrés? Est-ce que tu lis un peu?
Je lis plus l'actualité. Tu sais, je lis plus des sujets. J'essaie de m'informer sur beaucoup de choses. Des livres, tu sais, un livre qui m'a marqué dernièrement, je te dirais, c'est Shoe Dog de Nike, tu sais, le fondateur de Nike. C'est Phil Knight. Nous, on a adoré cette histoire-là parce que dans le fond, c'était l'histoire avant son IPO. Puis tu sais, comment il a scalé, justement, puis cette croissance-là, comment est-ce qu'il l'a fait. Nous, ça nous parlait beaucoup parce que c'était beaucoup du outsourcing de l'Asie, comment est-ce qu'il payait ses fournisseurs, sa réalité entrepreneuriale. Ben on se retrouvait, tu sais, moi, mon frère, les deux, on a lu ce livre-là. On a adoré, justement, parce qu'on se revoyait un petit peu là-dedans. Sinon, ben c'est ça, je lis sur beaucoup de sujets, plus sur Internet, tu sais, je vois de la crypto, de l'immobilier, finance en général, beaucoup de l'entrepreneuriat aussi. C'est du Business Insider ou du Fast Company de ce monde. C'est toutes des choses que tu sais, je suis abonné puis que je lis régulièrement. Fait que je m'inspire un peu de partout, puis c'est justement avec ce côté-là très actuel en ce moment de qu'est-ce qui se passe que là je me fais des têtes aussi sur nous, what's next aussi, puis comment est-ce que j'aime ça. Mais je suis pas du type à lire un bon roman. Non, on dirait que j'ai assez d'idées dans ma tête pour créer mes propres. Ben oui, Shoe Dog, c'est un roman, mais un vrai roman. C'est based on true story.
Ouais. Puis le livre en soi est totalement exceptionnel. Parce que c'est ça que, je pense que c'est Warren Buffett qui a dit ça après avoir lu ce livre-là. Il s'est rendu compte que Phil Knight était un aussi bon dirigeant d'entreprise que c'est un storyteller. Parce que dans la manière que le livre est écrit, en tout cas pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui cherchent un bon livre d'affaires, moi ça a été dans mon top 5, je dirais, des meilleurs livres d'affaires parce que c'est littéralement, tu tombes dans son histoire puis tu te rends compte que Nike, là, ça a passé très proche des fois de ne pas être le Nike qu'on connaît aujourd'hui. Et ce, à plusieurs fois. Là.
Ouais, comme beaucoup d'entreprises qu'on connaît ici et ailleurs, tu sais. La réalité, des fois, ben, tu sais, nous, c'était comme ça. Là. Nous, si c'était pas du pivot, on se parlerait pas aujourd'hui, puis on serait en faillite. Fait que ça a juste sorti-spiné, puis on knows qu'est-ce qui va arriver par la suite. Fait que, tu sais, oui, ce type de livre-là, inspirationnel, je te dirais. Tu sais, nous, avec ce qu'on a vécu sur les masques dans la dernière année, on s'est mis dans le cheminement d'écrire notre propre livre. C'est tout qu'un challenge. Fait que, tu sais, comme tu dis, avec Phil Knight, puis comment est-ce qu'il l'a fait, c'est sûr que je le salue parce que c'est tout qu'un challenge de le faire. Fait que puis nous, on s'est donné la tâche de l'écrire comme en anglais et en français. Donc on est là-dedans. Mais oui, c'est une belle épopée. Fait qu'on on vit à notre tour là, de vouloir ben, au moins le garder en tête. Est-ce qu'on va le publier? On le sait pas. Mais au moins à date, on se dit pour nous, puis de garder, vu que c'était encore tout frais dans notre tête, de se souvenir de l'ensemble de tous les petits détails qu'on a eus. Parce que, tu sais, oui, on cherchait des masques, mais on a tellement essayé de faire d'autres affaires pour aider à sourcer d'autres affaires qu'il y avait tellement de péripéties à raconter. Fait que peut-être un jour, tu verras ça sur ces tablettes.
Intéressant. Ben, je vais être un des premiers acheteurs. Puis, je terminerai. Routine, ça ressemble à quoi un petit peu les routines de Vincent avant d'aller travailler ou même peut-être pendant le travail?
J'aime pas la routine. J'étais obligé d'avoir une routine parce que j'ai 3 enfants qui vont à l'école ou à la garderie. Fait qu'il faut que je suive une certaine routine, mais moi, ma routine, je me lève quand même tard. Avant, je me levais vraiment tôt. Maintenant, je me lève plus tard. L'important, c'est de faire vraiment beaucoup de sport. On dirait sinon, je deviens agressif puis ça va pas bien. Il faut que je sois bien. Fait que moi, c'est beaucoup du tennis, le basic a recommencé, du jogging, du basket, bien sûr. Et tu sais, quand je joue là-dedans, là, au moins, là, je suis heureux. Là. Fait que à partir de là, après ça, ben je travaille quand même beaucoup. C'est beaucoup la ligne est mince, c'est entre ta vie personnelle et professionnelle, tu sais, fait que on dirait que moi les deux sont très liés ensemble avec mon frère dans la compagnie, ma blonde dans la compagnie aussi. Fait que j'ai comme le bonheur de côtoyer mes gens personnels au niveau professionnel. Fait que cette routine là est que je vais au bureau à tous les jours. C'est sûr que tu sais même en COVID, mais c'est parce qu'on a cette bulle là qu'on s'est créé, mais je fais juste après ça vivre à fond puis avoir du fun dans tout ce que je fais, mais sans avoir cette routine-là. Tu sais, mon horaire est jamais le même d'une semaine à l'autre. Je peux être pas le meilleur. Tu sais, puis cette routine-là, des fois, pour un gestionnaire, c'est l'opposé parce qu'il faut que tu aies tes standards puis que tu en arrives à avoir tes processus. Je suis peut-être pas le meilleur gestionnaire. C'est pour ça qu'on a un directeur général en place. Je suis plus l'entrepreneur, le créatif dans toute cette approche-là. Fait que c'est plus à ce niveau-là que je me perçois en termes de routinier, là. Anti-routine, je veux dire.
Bon, mais c'est parfait, c'est bon à savoir. Beaucoup de gens sur Hypercroissance, des fois, ils nous disent, et c'est un ou l'autre, hein. Les gens disent, je déteste la routine. Il y en a d'autres qui nous disent, moi, c'est à la minute près, c'est fou. Il y a comme pas d'entre-deux. Donc, je trouve ça toujours fascinant d'avoir ces réponses-là.
J'aime Vincent, être dans, hors de ma zone de confiance. Hors de ma zone de confiance. Tu sais pas ce qui va se passer. Fait que cette surprise-là, on dirait que c'est ce qui m'anime.
OK. Intéressant. Très bon à savoir. Ben, Vincent, merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire extraordinaire-là. Sérieusement, c'est assez exceptionnel comme pivot. C'est quelque chose que vous allez vous rappeler toute votre vie, qui a sauvé votre entreprise, que j'espère que je vais pouvoir lire dans un livre prochainement. Je connaissais pas le bouquin d'Alex Castonguay. Je pense que je vais aller l'acheter également pour essayer pour lire le chapitre qui vous est consacré, puis également peut-être l'étendue de ce qu'il était capable de découvrir lui de son côté. Puis si on veut en apprendre un petit peu plus sur mesure, médias sociaux, site web, c'est le meilleur endroit pour vous joindre?
Sur mesure. Fait que, tu sais, surmesure.com, que ce soit sur Instagram, Facebook, on est partout aussi. Fait qu'à ce niveau-là. Sinon, tu peux vivre aussi avec Vincent Frank. C'est c'est l'Instagram juste de moi et mon frère. Fait que on n'est pas très médias sociaux. Là. On pose à l'occasion, mais tu sais, plus justement sur notre réalité. On aime justement partager avec nos employés, faire vivre des expériences à notre monde. Fait que notre famille aussi. Fait que c'est le côté entrepreneurial de moi et mon frère, Vincent Frank. Puis sinon, hey, puis là, tu finissais, là, puis j'ai oublié de quoi de très important, là, mais là, c'est tout le niveau, la fondation sur mesure qu'on a partie il y a 2 ans. Puis ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais tout le côté, justement, de redonner au suivant, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour l'ensemble d'entrepreneurs. C'est tellement facile de dire que t'as pas le temps, tu sais, quand tu es justement dans ta business, sur tes affaires. Mais nous, dès le jour 1, tu sais, on s'est mis en lien avec beaucoup de causes, mais depuis 2 ans, on avait parti à la fondation sur mesure. Que là, aujourd'hui, va prendre un autre élan, parce que ça va être une fondation un petit peu plus familiale. Le nom reste à venir. Je peux même pas te le dire aujourd'hui parce qu'on rebaptise l'ensemble de ça, mais ça vient avec les jeunes. T'sais, nous, c'est beaucoup l'éducation avec un penchant vraiment sur passer à l'action qui revient un peu encore avec nos valeurs, qu'on va s'assurer que notre prochaine génération, que les jeunes soient épanouis, qu'ils vivent justement de leur passion puis qu'ils mettent en place surtout. Fait que c'est un peu vers ça que s'en va notre prochaine fondation. Fait que vous allez suivre le tout sur Vincent Frank.
Cool, ben c'est parfait. On va mettre le lien dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent suivre. Donc, Vincent, merci encore une fois beaucoup de ton temps aujourd'hui. Tu nous as consacré une bonne heure de podcast. C'est super gentil de ta part. Je pense que ça va bien bénéficier à l'audience. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Vincent m'a dit après l'entretien qu'il est en train d'écrire un livre sur les 3 mois incroyables que lui et son équipe ont vécu pendant la crise de la COVID-19. J'espère donc pouvoir analyser le tout rapidement et vous en faire part dans quelques temps. Si on revient sur la discussion que j'ai eue avec Vincent, on peut dire que c'est assez exceptionnel de voir ce qu'une équipe peut faire quand elle a le dos au mur. Paradoxalement, c'est quand nos options sont limitées qu'on prend souvent les meilleures décisions. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour hypercroissance en créant des pages totalement distinctes à G7 Media. On vous invite donc à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode d'Hypercroissance.